RCF.
Depuis l'Antiquité, Lyon est un pôle incontournable dans les domaines économiques, politiques, religieux, culturels et sociaux. Mais comme le Rhône qui la traverse, son histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de déclins et d'essors, de périodes paisibles et de révolutions. Elle a accueilli des rois, des princes, des papes et de riches marchands. Mais elle garde une forme de jalousie, voire de complexe vis-à-vis de Paris qui l'a supplantée comme capitale nationale. On l'a dit froide et fermée. Pourtant, au sens propre et au sens figuré, Lyon est une confluence, un nœud de communication entre le nord et le sud. Les grandes heures de Lyon, c'est le titre du livre que vous publiez chez Perrin. Jean Etévenot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et historien. Vous vous passionnez pour l'histoire de Lyon, que nous allons essayer de retracer avec vous dans ces entretiens. Est-ce que vous êtes un vrai Lyonnais, Jean Etévenot?
Non, je ne suis pas un vrai Lyonnais. Vous savez, moi, il y a guère plus de 60 ans que je vis à Lyon, mais j'ai fait toutes mes études secondaires, universitaires, ma vie professionnelle, sauf 4 ans en Afrique, à Lyon. Et puis, bon, comme historien, j'ai eu l'occasion de me plonger dans Lyon. J'ai eu l'occasion de faire des recherches, bref, de toujours approfondir cette ville extraordinaire. Je suis aussi attiré par le côté métropole. Cette fonction est extrêmement importante.
Pour comprendre l'histoire de Lyon, il faut décrire le site qui, dites-vous dans le livre, a longtemps été un site très marécageux. Qu'est-ce qui fait que des hommes se sont installés à cet endroit-là ?
Contrairement à ce qu'on peut croire et ce que beaucoup de gens ont écrit, le site de Lyon n'est pas si accueillant que cela. On dit toujours « Ah, c'est merveilleux, il y a les deux fleuves qui sont là, c'est un endroit naturel rêvé, Il faut voir comment la Saône et le Rhône étaient en quelque sorte une succession de rapides. Il faut voir comment au fil des siècles, tous les ponts qu'on y construisait, il est vrai qu'ils étaient en bois à cette époque, étaient détruits. Et puis bon, on se trouve quand même coincé entre le plateau de la Dombes, les Alpes et surtout le Massif central. Alors pourquoi ? Malgré tout, un lieu de convergence qui fait la jonction entre le nord et le sud.
C'est déjà une confluence.
C'est déjà une confluence, indépendamment même des fleuves. On est à la limite aussi des pays germaniques et des pays latins.
La première période attestée d'occupation humaine à Lyon remonte environ à 12 000 ans.
Oui.
Alors ensuite, il y a évidemment la grande période romaine.
La période gallo-romaine.
Gallo-romaine.
Hein, je vous reprends, parce que on a dit fort justement que Lyon était le miroir de Rome dans les Gaules, selon la fameuse expression d'Amable Odin. Mais Lyon est devenue la capitale de la Gaule romanisée. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ça s'est fait très, très rapidement.
Avec un peuple présent dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle les Ségusiaves.
Oui. Alors, on est aussi à la jonction de plusieurs peuples qui renforce justement cet aspect de confluence et qui ont amené ces populations à circuler, à passer d'un endroit à l'autre.
Et donc quand les Romains arrivent, ils n'arrivent pas en terrain vierge.
Les Romains n'arrivent pas en terrain vierge parce que, en particulier, disons les Gaulois qui étaient là, les Celtes, avaient l'habitude de se réunir à Lyon. Alors pourquoi se réunissaient-ils ? Eh bien, d'après ce qu'on a pu reconstituer et comprendre à partir des fouilles archéologiques, parce que il y avait déjà, notamment du côté de Fourvière, des réunions qui étaient à la fois politiques et religieuses, comme toutes celles qui vont se tenir dans les siècles qui vont suivre.
Vous dites aussi que on peut dater la fondation de la ville, ce qui est assez rare en histoire.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que en 1958, on a fêté le bimillénaire de Lyon. Oui. Ça, si vous voulez, c'est l'avantage de ce que l'on appelle les études épigraphiques, parce que on a retrouvé suffisamment de monuments gravés, d'inscriptions qui permettent de savoir exactement quand cela s'est passé. Et ce s'est passé quand ? Eh bien, peu de temps après la mort de César, puisque c'est un lieutenant de César, lequel Jules César était passé. ici, hein, sans doute à la Croix-Rousse. Hein, c'est un lieutenant Jules César qui a fondé la ville.
Donc en avril 58, et ce fameux gouverneur s'appelle Plancus.
Oui.
Il arrive avec 30 000 hommes à peu près.
Lucius Munatius Plancus, effectivement, et qui arrive là. C'est dans le cadre d'ailleurs un petit peu de tentatives de prise de possession de lieux qui sont disputés, parce qu'on est dans une période très très troublée à Rome. Alors il y a un lieutenant de César, mais il n'est pas le seul, et donc bon ben lui il est là, il fait son job, et la garnison va servir de point de départ à l'établissement de ce qui est au départ une colonie romaine traditionnelle, mais qui, en même pas une génération, va devenir une ville, et même une grande ville gallo-romaine.
Lugdunum, qu'est-ce que ça veut dire ?
Lugdunum, eh bien, nous avons plusieurs interprétations. La traditionnelle indique que Lugdunum, qui se fonde sur deux termes celtiques, le premier peut désigner la lumière, voire même le dieu de la lumière assimilé à un corbeau, puis Dunum qui signifie la montagne. Alors on a dit souvent que c'était la montagne des corbeaux et on a bâti beaucoup d'hypothèses là-dessus. Personnellement, je crois qu'il faut être beaucoup plus simple. Lugdunum, ça veut dire Clermont, c'est-à-dire la montagne de la clarté, la montagne de la lumière.
Alors des fouilles archéologiques préventives souvent sont quasiment en permanence exécutées à Lyon. En 2019, le quartier de la Visitation, donc sur la colline de Fourvière, a donné lieu à une découverte particulièrement intéressante. Benjamin Clément, un des archéologues responsables de ces fouilles, l'a décrivait sur RCF Lyon au micro d'Alice Forge.
On fouille à l'intérieur d'un îlot, sans doute, qui est divisé en différentes terrasses, avec la topographie extrêmement accidentée de la ville dans ce secteur. Une terrasse haute sur laquelle on a mis en évidence un secteur d'habitat, une petite domus, une maison lyonnaise, dont on a le fond, on va dire, de la maison, avec au moins 5 pièces, une cour qui s'appuie contre un mur de terrasse, donc qui surplombe un peu la ville. La vue devait être intéressante à l'époque depuis cette cour. Sur la terrasse intermédiaire, on fouille un bâtiment public, sans doute militaire, qui pourrait correspondre à un petit fortin, qui est lié donc à la remise en service du rempart, sans doute en 195 après Jésus-Christ, au moment où Claudius Albinus arrive à Lyon, dans un cadre de guerre civile. Et donc sur cette terrasse basse, on a ce bâtiment, ce fortin, qui est sans doute remis en activité au moment de l'arrivée d'Albin en 195 pour la défense de la ville, dans lequel on va retrouver des espaces dédiés au stockage des armes, notamment de l'artillerie lourde pour la défense du rempart, des espaces destinés à la vie des légionnaires, un espace de stockage un peu énigmatique qui pourrait constituer peut-être une salle d'archives. Et donc tout ça va être mis en place à cette époque-là et puis va être détruit à la suite de la bataille de Lyon, à la suite de la défaite d'Albin.
Des découvertes très précieuses, Jean Etévenot, pour comprendre l'histoire antique de Lugdunum, qui va devenir donc Lyon et qui va devenir donc la capitale des Trois Gaules.
Oui, la capitale des Trois Gaules, parce que très vite, Lyon devient un champ d'expérimentation à l'époque du successeur de César que nous connaissons sous le nom de l'empereur Auguste. Et grâce à Auguste, grâce à ses représentants sur place, eh bien Lyon va être en quelque sorte tiré vers le haut, c'est-à-dire que le pouvoir romain, le pouvoir de Rome, décide de faire de Lyon un centre important. Alors un centre important à l'époque romaine, ça signifie évidemment toute une urbanistique avec toutes ces constructions dont quelques-unes viennent d'être évoquées à l'occasion des dernières découvertes. C'est aussi un lieu central du point de vue politique et du point de vue religieux, les deux étant mêlés à travers un système particulier qui a été concentré sur ce que l'on a appelé l'autel des Trois Gaules, c'est-à-dire le culte rendu à la ville de Rome et par conséquent à l'empereur par les représentants de toutes les nations gauloises regroupées dans Trois Gaules. Voilà pourquoi on parle de l'amphithéâtre des Trois Gaules qui se trouve à la Croix-Rousse. C'était là où se réunissaient une soixantaine de nations venues de toutes les Gaules.
Une fois par an ?
Une fois par an. Et c'était une manière de faire communier les représentants de toute la Gaule dans la nouvelle politique, mais même la nouvelle mystique qui s'incarnait dans la personne de l'empereur. Et voilà pourquoi ce culte de Rome sur l'amphithéâtre des Trois Gaules a été important, et on peut même dire que c'était le premier parlement de l'histoire nationale.
Mais pourquoi à Lyon ? C'est sa situation géographique qui explique ce développement.
C'est sa situation géographique parce que Lyon est un endroit qui est quand même relativement facile d'accès grâce aux fleuves, parce que si les fleuves ne sont pas facilement navigables, on s'y déplace quand même. Et il y a déjà les fameuses compagnies de nautes, ces mariniers qui font un commerce qui irrigue toute l'Europe de l'Ouest et même jusqu'en Europe centrale.
Donc vous y avez fait allusion rapidement tout à l'heure, Jean Étévenot. Tout ceci s'accompagne de construction, d'une certaine conception de la cité et de certains privilèges ?
Bien sûr, il y a des privilèges qui vont être accordés puisque les Romains vont obtenir, notamment à l'époque de l'empereur Claude, des privilèges vont être accordés qui vont donner aux Lyonnais le même statut que les Romains, ce qui évidemment ne va pas faire très très plaisir aux vieux Romains qui voyaient en quelque sorte ces barbares, ces lointains étrangers de Lyonnais accéder au même statut social et politique qu'eux-mêmes.
Une découverte aussi très importante a été faite. Il s'agit de la table claudienne.
Justement, la table claudienne, c'est le texte par lequel l'empereur Claude donne ce droit de cité aux Lyonnais. C'est-à-dire que c'est une intervention impériale en plein Sénat au cours de laquelle Claude impose sa volonté en faveur de Lyon. On en avait d'ailleurs aussi une version écrite qui était un petit peu différente. Donc on a là véritablement, peut-on dire, un des textes fondateurs de Lyon et qui montre en tout cas l'intérêt porté par le pouvoir dès l'empereur Claude, c'est-à-dire un des premiers empereurs romains après Auguste, à la cité.
Un dernier mot pour vous demander ce qu'est Lutèce à cette époque-là qui va devenir Paris.
Lutèce est une bourgade parmi d'autres qui se développe surtout un petit peu après, parce que Lutèce, c'est plutôt le 3e, 4e siècle, même s'il y a déjà quelque chose à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec ce que la ville des Parisis, puisque Lutèce était le lieu de la nation des Parisis, va devenir ensuite.
Jean Étévenot, dans la période antique que nous avons évoquée concernant l'histoire de Lyon, de Lugdunum, qui est plutôt, on l'a vu, une période d'essor où la ville a une importance considérable, non seulement en Gaule, mais dans l'ensemble de l'Empire romain. Comment le christianisme intervient-il ? Quel rôle est-ce qu'il va jouer ?
D'un point de vue historique, Lyon est la première ville pour laquelle on a des certitudes en ce qui concerne l'implantation du christianisme. Ailleurs, je pense à Marseille, mais aussi à beaucoup d'autres endroits en France, on a des traditions. Pour Lyon, c'est très facile, pour une raison très simple, c'est que l'année 177, donc la fin du IIe siècle de notre ère, a été marquée par une violente persécution qui s'est abattue sur les chrétiens de Lyon et de Vienne, d'ailleurs. Et cette persécution nous est connue par un texte qui nous en apprend beaucoup, non seulement sur les chrétiens, mais sur la façon dont on vivait à cette époque. Et c'est resté très fort dans la mémoire des Lyonnais, à travers deux ou trois noms. Je pense à Saint Potin, le vieil évêque. Je pense à Saint Irénée, qui lui échappe à la persécution et qui va devenir une des grandes figures de l'Église chrétienne. Et puis Blandine, l'esclave, qui était sans doute pas la jeune et belle esclave qu'on décrit habituellement, mais
une femme d'âge mûr.
Plutôt d'âge mûr, et qui a d'ailleurs été martyrisée avec sa patronne, ce qui est intéressant pour comprendre les liens sociaux qui pouvaient exister à cette époque.
Donc ces martyrs ont lieu à l'amphithéâtre des Trois Gaules.
Oui, ça se passe à l'amphithéâtre des Trois Gaules, puisque c'était justement le lieu où on faisait des tas de réjouissances. En plus, nous l'avons indiqué hier, c'était l'endroit où avait lieu la célébration annuelle en l'honneur de Rome et de l'empereur.
On sait si la communauté des chrétiens était importante à Lugdunum ?
C'est difficile de la mesurer, de même qu'il est difficile de connaître le nombre d'habitants de cette époque, mais en tout cas c'était une communauté suffisamment importante pour déclencher l'hostilité contre elle, parce qu'on voit bien que cette communauté n'a pas été anéantie par la persécution et que cette communauté a continué à croître. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que cette communauté, elle est déjà multiple. C'est une communauté extrêmement mélangée. Et ça, ça se voit tout simplement par les noms des chrétiens cités dans la lettre qui relate la persécution. Notamment des noms orientaux. Et d'ailleurs, Potin et Irénée sont des termes grecs qui montrent bien que Lyon attirait des gens qui venaient de loin, notamment des commerçants. C'est ce qui va d'ailleurs aussi expliquer la présence d'une communauté juive dans la ville.
Au IIe siècle, la ville est marquée par un déclin. La population se regroupe au pied de la colline. Qu'est-ce qui explique cet épisode et est-ce qu'il est très marquant ?
Oui, en fait, il est très marquant parce que Luc Dunhomme se trouve pris dans l'écheveau des luttes qui commencent à apparaître à la fin du IIe siècle entre des candidats à l'Empire qui se combattent les uns les autres, et d'autre part, les débuts de ce qu'on a appelé assez improprement, mais gardons l'expression, les invasions barbares, et tout ça crée un sentiment d'insécurité. Et on voit bien qu'il commence à y avoir des abandons de sites, et les Lyonnais commencent un petit peu à dégringoler la colline. Ils se trouvaient déjà en bas, hein. On avait des tas d'établissements romains, notamment du côté des Nez, on les connaît bien, mais l'essentiel se trouvait quand même sur la colline de Fourvière. Et là, les Lyonnais ne se sentent plus en sécurité, et ils vont se coincer au bas de la colline, sur les bords de la Saône, et ils vont se mettre, pour employer une expression lyonnaise traditionnelle, ils vont se mettre en cuchon, hein, c'est-à-dire les uns sur les autres. Ils préfèrent se resserrer plutôt que de continuer à vivre dans les larges villas qui s'étaient développées à l'époque romaine.
Pour en revenir à l'histoire de l'Église, les choses changent beaucoup avec Constantin en 313 qui accorde la liberté de culte. Où est-ce qu'on en est à Lyon du culte que l'on rendait à Rome ?
Le culte que l'on rendait à Rome est un culte qui s'étiole parce que il y a manifestement un développement des églises chrétiennes. On a quand même beaucoup d'églises qu'on appelle les églises paléo-chrétiennes, c'est-à-dire qui datent des premiers siècles, qu'on a retrouvées un petit peu partout. Et tout ça atteste une évolution au profit du christianisme. Néanmoins, il ne faut pas croire que tout le monde devienne chrétien du jour au lendemain. Les choses sont longues et ce qui va sans doute favoriser le christianisme, c'est une certaine dégénérescence du pouvoir politique romain. Et à ce moment-là, eh bien, ce sont les évêques qui vont prendre les rênes et qui vont tenter de diriger la ville, les habitants, comme un petit peu partout d'ailleurs dans cette époque troublée.
Et donc l'évêque joue un rôle central ?
L'évêque joue un rôle central. C'est quelque chose, on peut dire, qui va durer jusqu'au XIVe siècle, c'est-à-dire jusqu'au rattachement définitif de Lyon à la France. Lyon est une ville épiscopale.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Voilà un extrait d'une œuvre de Francesco Laiol, qui est un compositeur né à Florence à la fin du XVe siècle, donc beaucoup plus tard que la période que nous évoquons avec vous, Jean Thévenot, mais qui est mort à Lyon après y avoir vécu un certain nombre d'années, aux alentours de 1540.
Voilà, je crois, un excellent exemple des liens entre Lyon et l'Italie.
Alors, l'évêque de Lyon, nous venons de l'évoquer, est un personnage très important. Et malgré le déclin dont on a parlé, il garde une espèce d'autorité, d'antériorité, disons, sur le plan ecclésial, même vis-à-vis des évêques des cités alentours qui sont importantes, elles aussi, comme Autun, par exemple.
Vous avez employé le mot exact qui est antériorité. Lyon, c'est, comme on disait autrefois en latin, caput Galliarum, hein, c'est-à-dire la tête des Gaules, et ça a été vrai notamment sur le plan ecclésial, et c'est quelque chose dont les archevêques de Lyon vont toujours se réclamer, et l'archevêque de Lyon était considéré plus ou moins comme le chef de l'Église de France, et on l'a bien vu avec un personnage tout à fait extraordinaire, à l'époque de Napoléon, le cardinal Fesch, car le cardinal Fesch considérait que, en tant qu'archevêque de Lyon, il était la première voix de l'Église de France, au début du XIXe siècle. Donc vous voyez, ça a duré très longtemps.
L'archevêque de Lyon qui reste le primat des Gaules aujourd'hui encore.
Qui reste le primat des Gaules. Alors aujourd'hui, c'est une...
Un titre honorifique.
C'est un titre honorifique. Si j'étais méchant, je dirais que les politiques locaux y tiennent encore plus que l'archevêque lui-même. Mais les Lyonnais en sont effectivement très fiers. Bon, c'est un titre qui a été accordé par le pape au XIe siècle, d'ailleurs pour des raisons politique, mais il en est resté effectivement cette suprématie, cette primauté, hein, pour employer le terme traditionnel.
Cette église de Lyon, elle a la réputation d'être assez bouillonnante, d'avoir beaucoup de dynamisme, d'initiative, d'être quelquefois un tout petit peu indisciplinée.
Oui. Oh ben, vous pouvez enlever le quelquefois, parce que je crois que...
Et le un tout petit peu.
Et un tout petit peu, oui. L'église de Lyon a de solides traditions, au pluriel. Ça veut donc dire que ces traditions sont multiples, que ces traditions se heurtent parfois et contribuent à faire de cette ville, pas si grande que ça finalement, un lieu extraordinaire de bouillonnement, comme vous l'avez dit. C'est valable aujourd'hui, ça l'était aussi dans le passé. Et plutôt que de bouillonnement, je dirais que c'est une ville d'initiative. Hein. Quand on regarde par exemple le nombre de congrégations religieuses qui ont été fondées à Lyon au XIXe siècle, c'est tout à fait extraordinaire, grâce d'ailleurs en particulier au cardinal Fesch que je citais il y a quelques instants.
Si on devait en citer quelques-unes.
Ah ben, vous avez l'immense famille Marie. Parce que la famille Mariste, c'est les pères Maristes, c'est les frères Maristes, c'est les sœurs Maristes et c'est les sœurs missionnaires de la Société de Marie qui ont rayonné dans le monde entier, en particulier en Océanie. Et là, je donne une petite anecdote. Il y a quelques années, l'archevêque de Wellington en Nouvelle-Zélande est venu à Lyon et il a dit qu'il se considérait de tradition johannique, c'est-à-dire qu'il se rattachait à Saint-Jean parce que c'était l'église de Lyon qui avait apporté le catholicisme en Nouvelle-Zélande, et l'église de Lyon, eh bien, c'est l'église de Saint-Irénée, de Saint-Potin, hein, c'est-à-dire des gens dans la ligne directe de l'évangéliste Jean.
Et puisque vous parlez de l'Océanie, on peut parler aussi de Pauline Jaricot et des œuvres pontificales missionnaires.
Alors ça, justement, c'est très, très intéressant parce que ça nous montre la place qu'ont tenue des femmes et laïques. Car Pauline Jaricot, c'était une laïque. Donc les débats qui peuvent exister actuellement sur la place des femmes dans l'Église, Lyon y a répondu à sa manière dès le 19e siècle. Ça n'a pas toujours été très facile pour la pauvre Pauline qui a dû se battre. Mais enfin, il y est quand même arrivé et elle a fondé la propagation de la foi, elle a fondé le rosaire vivant. C'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je dirais, c'est une de ces femmes qui ont fait l'église missionnaire de Lyon au XIXe siècle.
Dans votre livre, Jean Etévenot, on apprend que en 1789, Lyon est avec Paris la seule agglomération en France à dépasser les 100 000 habitants. Alors revenons sur cette rivalité entre Lyon et Lutèce, enfin désormais Paris. Donc, qu'est-ce qui fait que ça bascule en faveur de Paris ?
Plutôt que de basculement, je préférerais relever le fait que Lyon, jusqu'au XIVe siècle, n'était pas dans la même circonscription politique que Paris, c'est-à-dire que Lyon ne faisait pas partie de la France. Lyon faisait partie de ce qu'on appelait le Saint-Empire romain germanique. Alors, vous allez me dire, le Saint-Empire romain germanique, comment l'Allemagne, Lyon était allemand? Non, pas du tout, non. Mais le Saint-Empire romain germanique, c'était un truc très composite, dans lequel il y avait justement des villes libres, et Lyon était une ville libre, autrement dit, elle s'administrait par elle-même. Et sans être anti-française, elle regardait la France qui était à ses portes, mais elle n'en faisait pas partie. La preuve, c'est que lorsque, à partir surtout du XIIIe siècle, les rois de France entament une véritable politique de grignotage pour prendre le contrôle de Lyon, ben, les Lyonnais résistent. Mais évidemment, le roi de France a été le plus malin. Il a su d'ailleurs merveilleusement jouer des rivalités, parce que Lyon-Ville Libre, ça voulait dire que le pouvoir théorique, c'était l'archevêque, mais l'archevêque était censé partager le pouvoir avec le chapitre cathédral, donc il y avait déjà des rivalités internes. Et puis, il y avait une force montante qui était la bourgeoisie, qui, comme dans toutes les villes qui se développaient au Moyen-Âge, phénomène bien connu, voulait prendre de plus en plus de pouvoir. Et alors, le roi de France était très malin, il a dit, oh, écoutez, vous avez des problèmes, je vais vous aider, j'ai aucun intérêt là-dedans, bien entendu, simplement je vous offre mes bons offices, et les bons offices, ça s'est traduit par une annexion en bonne et due forme, à laquelle il a fallu donner un coup de pouce final, c'est-à-dire que l'archevêque de Lyon, qui était Pierre de Savoie, a été emprisonné jusqu'à ce qu'il signe le document par lequel il reconnaissait l'autorité du roi de France.
Et c'est ainsi que Lyon est devenue une ville française.
Lyon est devenue une ville française. Et on va assister dans les siècles qui suivent à une diminution des pouvoirs de la municipalité lyonnaise. Le pouvoir a pris le contrôle total de la ville et Lyon a été une ville sujette.
Est-ce que ça a eu un impact sur la vie économique de cette ville, dont on dit qu'elle a toujours quand même été très dynamique? Il y a eu beaucoup de marchands, beaucoup d'échanges, ne serait-ce que grâce au fleuve qui la traverse et à sa situation géographique dont on a déjà largement parlé.
Ça a eu un impact positif, parce que les rois de France qui voulaient accroître leur pouvoir se sont bien rendus compte des possibilités économiques extraordinaires que recelait Lyon. Et c'est pour cela que François Ier a donné à Lyon une arme formidable qui était la soie. C'est-à-dire d'abord le monopole du commerce de la soie, ensuite la fabrication de la soie, ce qui a permis de drainer vers Lyon tout ce que les mûriers de la région, bien au-delà même de Rhône-Alpes à l'époque, pouvaient produire. Et donc la fonction économique de Lyon a été littéralement boostée par le pouvoir royal, avec une contrepartie. C'est que le pouvoir royal a dit, vous les Lyonnais, vous êtes très 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 bons pour l'économie. Vous êtes très très bons pour produire de la soierie. Vous avez des dessins extraordinaires, etc. Mais vous ne vous occupez que de ça. Hein. N'essayez pas de faire autre chose. Alors, faire autre chose, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire tenir un rôle politique. À Lyon, il n'y a jamais eu de parlement, contrairement à d'autres villes de l'Ancien Régime. Et à Lyon, il n'y a même jamais eu d'université, parce qu'une université, ça peut être dangereux.
Ça brasse des idées.
Oui, 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 oui. Donc, on a soigneusement écarté toute possibilité d'une vie intellectuelle et politique trop affirmée. Et on voit encore, à la veille de la Révolution, l'archevêque de Lyon plaider vainement en faveur de l'établissement d'une université à Lyon. Mais le pouvoir royal a dit non, comme il l'avait toujours dit.
Donc à la veille de la Révolution, c'est une ville qui vit essentiellement de son économie et en particulier de la soie et des artisans, des soyeux, des canuts comme on les appelle, qui sont des centaines.
Oui, 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 les Lyonnais en vivent bien. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lyon dépasse les 100 000 habitants. C'est une ville prospère, alors avec des crises en économie liées à la mode. Hein, et en particulier quand la chère reine Marie-Antoinette a développé à l'anglaise le goût des habits simples faits avec de la mousseline, des indiennes, et tout ça, les Lyonnais n'étaient pas très contents parce qu'évidemment, le marché des soieries en prenait un sacré coup. Heureusement, les Lyonnais étaient déjà de très bons exportateurs et bon, ils arrivaient à en vivre. Et ensuite, évidemment, va arriver la catastrophe de la Révolution.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau, rubans au sautoir.
La suite de l'histoire.
Le chant des Canus, Jean Thévenot, bien sûr, interprété ici par Lenny Escudero. Les Canus sont restés dans l'histoire et dans les mémoires, notamment des Lyonnais, mais pas seulement, parce qu'ils se sont révoltés. La révolte a été terrible. Est-ce qu'elle s'inscrit vraiment dans la suite de la Révolution française? Elle a un rapport?
Elle s'inscrit pas dans la suite de la Révolution française, elle s'inscrit dans des mouvements qui ont commencé bien avant, car au XVIIIe siècle, il y avait déjà eu ce qu'on appelait à l'époque des émotions, c'est-à-dire des émeutes, qui partaient toujours du même problème. Il y avait une opposition entre les donneurs d'ordre, qui étaient les marchands de soie, et ceux qui fabriquaient la soie, c'est-à-dire les ouvriers qu'on commence à appeler les canuts à cette époque, lesquels trouvaient qu'on ne les payait pas suffisamment, qu'ils réclamaient ce qu'on appelait un tarif minimum. Alors, il y a eu des difficultés avant la Révolution, et puis il va y en avoir après, notamment en 1831 et 1834, lors des deux révoltes des canuts, pour lesquelles il a quand même fallu envoyer l'armée nationale, l'armée parisienne, pour mettre à récipicence ces pauvres Lyonnais. En plus, cette révolte s'inscrivait également dans autre chose qui remonte à 1793, parce qu'en 1793, les Lyonnais, qui étaient relativement modérés, s'étaient révoltés contre la convention jacobine qui dirigeait la France, et là aussi, il avait fallu envoyer l'armée parisienne pour mettre fin, grâce à un siège long, douloureux, meurtrier, destructeur, pour mettre les Lyonnais là aussi à répit. Donc, 1831-1834, c'est à nouveau un paroxysme dans cette lutte entre les canuts et puis les marchands-fabricants, lesquels marchands-fabricants aimaient bien se dire aussi fabricants, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas du tout fabricants, car ceux qui fabriquaient, c'était les canuts.
Donc, il y a du négoce.
C'était le négoce de la soie, qui a d'ailleurs très très bien fonctionné, qui va d'ailleurs d'autant plus fonctionner qu'il y a des innovations techniques qui ont commencé au 18e siècle et qui se développe au début du 19e avec en particulier un personnage qui est devenu légendaire et sur lequel on a très peu de renseignements en réalité, qui est Jacquard, l'homme du métier Jacquard, qui va permettre de multiplier la production de la soie, et de la multiplier et de l'envoyer dans le monde entier. Tout cela étant également servi par des découvertes au niveau de la chimie, de la teinture, etc., qui vont faire de Lyon non seulement la cité où on produit la soie, mais aussi une cité de la chimie, ce qui demeure encore aujourd'hui avec la partie sud de l'agglomération qui est toujours dénommée le couloir de la chimie.
Vous avez parlé du caractère un peu indiscipliné de l'église de Lyon. Est-ce que Lyon est une ville où on est assez facilement tenté par la révolte et où on est capable de faire une révolution?
Oui, ça fait partie de ce que on pourrait appeler, en reprenant le mot forgé par Régis Néret, la lyonitude. La lyonitude, c'est un sentiment à la fois d'identité très très fort vis-à-vis de Paris. Au-delà de ce sentiment, c'est aussi la capacité à défendre ce que l'on est, s'il le faut, en prenant les armes. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve au fil des siècles, sans qu'on puisse dire, car il ne faudrait pas exagérer dans l'autre sens, que Lyon ait été en permanence une ville rebelle. Mais il y a quand même à Lyon ce petit côté contestataire.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit de Lyon que ça a été la capitale de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Alors, cela dit, personnellement, j'ai une vue un petit peu plus démultipliée, je dirais, de la situation, parce que Lyon était la capitale de la résistance, c'est vrai, mais elle a été aussi la capitale de la collaboration, elle a été aussi la capitale de l'attentisme, comme un petit peu partout en France. C'est-à-dire que faire de Lyon le centre de la résistance se comprend, notamment avec l'action de Jean Moulin, ça il ne faut pas la minorer, avec l'action de tous les réseaux qui se sont organisés et développés à partir de Lyon, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas eu que ça. Surtout, ce qui explique cette importance, c'est que Lyon s'est trouvé quand même jusqu'en 1942 dans ce qu'on appelait la zone libre, alors que Paris était dans la zone occupée, qu'à Paris, il n'y avait plus le pouvoir politique qui s'était transféré à Vichy, et par conséquent, Lyon avait une présence et un jeu dans tous les aspects de la vie d'alors.
Jean Étévenot, qu'est-ce que vous diriez du paradoxe qui consiste à présenter quelquefois cette ville de Lyon comme étant une ville un peu fermée, un peu froide, un peu repliée sur elle-même où il faut montrer patte blanche, et en même temps, cette ouverture dont elle fait preuve, puisque, encore une fois, elle est traversée par deux fleuves, en tout cas un fleuve, une rivière qui...
Plus le Beaujolais, n'oublions pas le troisième fleuve.
Oui, il y en a trois, oui. Il ne faut surtout pas oublier le troisième, qui est donc le Beaujolais, et qui l'ouvre depuis l'Antiquité, vers d'autres contrées, vers d'autres peuples et vers d'autres cultures.
Oui, mais ça c'est un petit peu le côté Janus des Lyonnais. Et alors cette ville fermée et un peu grise, je crois surtout qu'il faut y voir un trait fondamental du caractère lyonnais qui consiste à se défier du paraître, ne pas vouloir se mettre en avant et à rester dans la modestie et l'humilité.
C'est-à-dire que les façades sont simples, mais une fois qu'on a passé le porche,
bien sûr,
la richesse peut se montrer.
Alors ça, évidemment, bon, c'est un petit peu une vision dépassée et folklorique. C'est celle qu'on trouvait dans le fameux roman Calixte de Jean Dufour, qui va bientôt avoir quand même une centaine d'années. Mais ça correspondait effectivement à une réalité. C'est-à-dire que à Lyon, notamment, on fait le bien, mais on ne le dit pas. Et il ne faut pas le dire. C'est un manque de goût total, que de se mettre en avant ou de mettre en avant ce que l'on peut faire. Ce que l'on fait, ben, on le fait aux quatre coins du monde, pour des raisons économiques, bien entendu, parce qu'il faut aller vendre ses productions un peu partout, mais on le fait aussi en envoyant des missionnaires, en envoyant des explorateurs, en faisant aujourd'hui des missions humanitaires, en fabriquant des vaccins, etc., etc. Et Lyon est extrêmement tourné vers l'extérieur et l'accueille aussi ceux qui viennent.
C'est un double mouvement.
C'est un double mouvement. C'est véritablement un échange. Dieu sait que Lyon n'a pas une très longue tradition universitaire. J'ai eu l'occasion d'en parler précédemment. Mais au XXe siècle, Lyon accueille des étudiants qui viennent de partout. Et ça commence très tôt. Ça commence au lendemain de la Grande Guerre, avec en particulier ces étudiants chinois dont le souvenir est perpétué à travers ce qu'on appelle à Lyon le fort franco-chinois, qui témoigne précisément de la présence d'étudiants asiatiques. Et il y a à la bibliothèque municipale de Lyon aujourd'hui un fonds chinois et un fonds extrême-oriental tout à fait extraordinaire.
Puisque vous en parlez, je vous propose d'écouter un extrait d'un journal d'Euronews diffusé en mars 2014 qui traite donc de la venue à Lyon du président chinois, précisément dans ce lieu culturel franco-chinois qui d'ailleurs à deux pas de nos studios.
Le président chinois effectue sa première visite en France et en Europe. Et dans l'Hexagone, c'est par Lyon qu'il l'a commencé. L'ancienne capitale de la soie a un lien historique avec la Chine. La visite de Xi Jinping marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises.
Premier acte officiel de cette visite d'État de trois jours du président chinois Xi Jinping ici à Lyon, avec un dîner de gala en compagnie des autorités de la ville. Ce mercredi, poursuite de cette visite entre Rhône et Saône avec l'Institut franco-chinois et auparavant le centre de recherche Biomérieux.
La visite sera l'occasion de signer des accords commerciaux. Paris profite de ces trois jours pour séduire les entreprises et les investisseurs chinois.
Une autre influence notable et visible, c'est celle de l'Italie. On a déjà eu l'occasion d'en parler. On dit quelquefois que Lyon a des airs un peu florentins, quelque chose un peu de la Toscane. C'est une impression ou ça s'appuie sur une réalité ?
C'est une impression dans la mesure où ça frappe quand on regarde le paysage architectural, mais c'est une réalité parce que ça s'ancre dans des siècles d'histoire. C'est-à-dire que les Italiens à Lyon sont présents dès la Renaissance, parce que lorsque François Ier a commencé à développer la soie à Lyon, il a fait appel à des Italiens. Et nous avons quelques noms à Lyon qui sont bien connus comme les Gadagnes. Les Gadagnes, c'était en fait les Guadagni. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Songeons que la famille du cardinal de Retz, par exemple, les Gondi, est passée à Lyon. Le premier mari de Madame de Maintenon, Paul Scarron, était d'une famille d'Italiens qui était passée à Lyon. Et ceci va se poursuivre durant les siècles qui suivent avec les soyeux, avec les banquiers, je pense aux Médici, à un point tel qu'on va avoir quand même quelqu'un bien connu dans l'histoire européenne qui est César Borgia. César Borgia a eu le titre de gouverneur militaire de Lyon. Hein, c'est quand même extrêmement révélateur. Puis alors au XIXe siècle, on va avoir beaucoup d'artisans italiens qui vont apporter leur savoir-faire à Lyon. Et en même temps, je n'ose même pas dire des bourgeois, parce que souvent, au départ, c'était des gens qui n'étaient pas très fortunés, des Italiens qui s'établissent à Lyon et qui vont lancer de grandes affaires. Je pense par exemple à la famille Mangini. Et j'y pense d'autant plus que certaines des constructions établies par les Mangini, je pense à quelques kilomètres de Lyon, au château de la Pérolière, sont manifestement inspirées du style florentin. Et le vieux Lyon, notre cher vieux Lyon, qui a été heureusement ravalé depuis un demi-siècle, c'est un vieux Lyon qui évoque immanquablement l'Italie. Et les parallèles entre Lyon et Sienne et d'autres villes ne manquent pas et sont tout à fait justifiés.
Lyon est-elle tournée vers l'Afrique? Et si oui, quel est le rôle des missionnaires, des religieux dans ces liens qui ont pu être établis?
Lyon est tournée vers l'Afrique tout simplement parce qu'au XIXe siècle, il y a des tas de missionnaires qui sont partis de Lyon. Alors j'ai eu l'occasion précédemment de citer les maristes, eux c'était plutôt vers l'Océanie. Mais vous avez eu aussi les missions africaines de Lyon, qui ont d'ailleurs toujours un extraordinaire musée en plein centre de la ville. Et beaucoup de congrégations masculines et féminines qui se sont tournées vers l'Afrique, qui font que beaucoup de pays ont été évangélisés par des Lyonnais avec des liens tout particuliers, comme ceux que le diocèse a établis au Burkina Faso avec l'évêché de Koubela.
Et avec le Moyen-Orient?
Alors le Moyen-Orient, c'est multiple également, parce que il y a le côté religieux, avec notamment les jésuites, pas uniquement, mais surtout, et puis il y a le côté universitaire enseignement, par exemple à Beyrouth, l'université Saint-Joseph et autres, et puis également le côté recherche, recherche archéologique, avec des chercheurs lyonnais qui ont beaucoup travaillé en Syrie et sur les chantiers du Moyen-Orient.
Je fais un retour en arrière, je pense aux foires de Lyon qui ont largement contribué aussi à ces échanges avec l'extérieur. C'est quelque chose qui a été central à un moment donné de l'histoire de la ville.
Tout à fait, c'est quelque chose qui est central à la fin du Moyen-Âge et à l'époque de la Renaissance. Les foires de Lyon qui avaient d'ailleurs été créées pour concurrencer, même porter un sérieux coup aux foires de Genève. Et l'opération a assez bien fonctionné parce que ces foires, un peu comme celles de Champagne qui sont davantage connues, les foires de Lyon ont permis d'établir une activité non seulement marchande, mais une activité de transactions financières, une activité de change symbolisée par la fameuse loge du change construite par Soufflot dans le vieux Lyon au XVIIIe siècle et qui abrite aujourd'hui une église protestante. Et bien ça, c'est également révélateur de l'importance de la place financière et économique qu'a été Lyon pendant des siècles.
Jean Etévenot, puisque nous évoquons avec vous l'histoire de Lyon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un art d'être lyonnais?
Oui, il y a un art d'être lyonnais qui repose sur une convivialité que je qualifierais de peu expansive. Là, on retombe dans une caractéristique précédemment évoquée, qui veut que le Lyonnais ne montre pas trop ses émotions, ce qu'il pense, qu'il ne fasse pas étalage de ce qu'il a. Je pense même qu'on pourrait peut-être prendre comme exemple Guignol. Dans la mesure où, à l'origine, c'est quelque chose de très populaire qui ensuite a été assimilé par l'ensemble de la société lyonnaise. Donc c'est un personnage qui apparaît au lendemain de la Révolution. Guignol, c'est le canu moqueur, frondeur, mais gentil, toujours prêt à rendre service et il veut pas créer de problèmes. C'est un personnage qui va nourrir tout le 19e siècle, même une partie du 20e siècle, et qui n'a rien à voir avec le grand Guignol qu'on peut trouver par ailleurs. Car Guignol est en fait un personnage très fin, avec une caractéristique, c'est son parler, qui est le parler lyonnais traditionnel, et qui là aussi a contribué à transcender les différences sociales qui pouvaient exister entre les uns et les autres.
C'est une sorte de patois ?
C'est une sorte de patois, c'est la variante locale du franco-provençal qui est parlé dans la région, avec un accent bien particulier, conservé par quelques personnes. Mais enfin, il faut quand même savoir qu'il y a toujours aujourd'hui une société des Amis de Guignol qui doit compter 600 à 700 personnes.
Bonjour les Gones, bonjour les Fenottes, bonjour Gérard Truchet et bienvenue dans les Lyonnaiseries.
Extrait des chroniques Les Lyonnaiseries, présenté sur RCF Lyon par Adrien Barrault.
Alors bonjour, et alors vraiment, je suis très heureux que vous veniez d'employer là deux mots typiquement lyonnais. Le mot « gonne » qui représente non pas seulement l'enfant, parce qu'on est gonne toute sa vie, de la naissance à la mort. Et puis la phonote, ben, c'est sa compagne, c'est un mot très délicat, phonone, c'est plus joli que femme.
Je rappelle que vous êtes donc président de l'association Les Amis de Lyon et de Guignol, et vous avez lutté justement pour utiliser ces mots-là qu'on utilise tous les jours à Lyon en tout cas.
Et ben voilà, depuis 40 ans que j'emploie ces mots, bien petit à petit avec Les Amis de Lyon et de Guignol, eh bien ils sont revenus dans le langage populaire et on ne peut que s'en réjouir.
L'eau qui dort et se réveille d'une longue nuit de sommeil, c'est comme si j'étais parti la veille. Je suis entre la colline qui prie et la colline qui crie. Ferme les yeux, mange un morceau de soleil. Je serai dilettante mort de rire en sentant la mort venir. Du moins j'espère. Je serai dilettante à temps partiel, même à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère. Revoir la mer et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour. Lyon, presqu'île.
De grands artistes lyonnais ?
Mais les grands artistes lyonnais, on en a eu depuis l'époque classique. Lorsqu'on a beaucoup parlé de l'incendie qui s'était déclaré à Notre-Dame, on n'a pas toujours indiqué que le superbe maître-autel, heureusement préservé, propose toujours, heureusement, des statues qui ont été réalisées par des Lyonnais. Il y a eu aussi beaucoup de peintres lyonnais. Et ces peintres lyonnais se sont développés avec une particularité qui est que au XVIIIe siècle, on avait besoin de motifs et en particulier de motifs floraux pour les textiles. Car si les textiles lyonnais se vendaient aux quatre coins de la planète déjà à ce moment-là, c'était à cause de la richesse des tissus, mais aussi de la finesse des motifs. Et ces motifs, c'était des motifs floraux. Il y avait une école de dessin à Lyon, c'était une école royale. Hein, elle a été fondée par Louis XV. Et à partir de là, on va avoir 18e, 19e, 20e, même 21e siècle, un certain nombre d'artistes qui vont être formés par cette nécessité d'avoir des gens capables d'orner tous ces textiles qui étaient non seulement des tissus portés par les personnes, mais qui étaient aussi des textiles d'ameublement. Aujourd'hui, les grands palais nationaux sont toujours décorés avec les commandes royales, les commandes napoléoniennes, les commandes de la Troisième République, et on les refait, etc. Il y a donc là une tradition très très forte. À Lyon, on a su manier, je dirais, ce que faisaient les ingénieurs, les inventeurs, et puis également les artistes.
Je vous propose, Jean Etévenot, d'écouter une voix. Vous allez certainement la reconnaître. Cet enregistrement date de 1960. Écoutez.
Je crois qu'on mange très bien à Lyon, et surtout maintenant, car nous avons des produits de qualité qu'on ne pouvait peut-être pas avoir avant. Nous avons des frigos, nous avons un tonne de marchandises qui arrivent dans une qualité exceptionnelle.
Est-ce que vous avez toujours autant de clients, ou plus ?
Je crois qu'on en aurait plus en ce moment, car Lyon est vraiment une plaque tournante, et plus ça va, plus il y a l'étranger à Lyon, et ceci nous amène beaucoup de clients.
Chez vous, à partir de quel prix peut-on bien manger ?
Vous savez, la bonne cuisine est très variable comme prix. On peut manger à tous les prix, mais enfin, la bonne cuisine est chère.
Est-ce que ce prix a augmenté par rapport aux années précédentes ?
Je ne crois pas.
Quel est, à votre avis, le plat le plus demandé, votre spécialité chez vous ?
Vous savez, on essaye chez nous de faire toute la cuisine, c'est-à-dire on essaye de s'étreindre un petit peu, de faire de la bonne cuisine. Mais le plat le plus demandé, les volailles de Bresse, que je tiens en somme dans les mains, sont encore très demandées car nous avons un poulet extraordinaire qui est encore nourri tout au grain. Et je crois que c'est la seule région autour de Lyon, dans la Bresse, où on nourrit le poulet au grain de maïs.
Paul Bocuse, bien sûr.
Oui, 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 bien sûr que c'est la voix de Paul Bocuse. Et c'est notre Paul national qui...
Et
international. Hein, qui savait très bien mettre en valeur la variété, et en particulier la variété régionale des produits. Et quand on parle de terre de confluence pour Lyon, ben, il faudrait dire aussi terre de confluence gastronomique. Hein, parce que si on mange bien à Lyon, c'est parce que on a la chance d'avoir toutes sortes de productions de la terre, les arbres fruitiers, les vignes. On est quand même à la conjonction de la Bourgogne et puis des côtes du Rhône. On a aussi des races de bovins tout à fait extraordinaires. On a une variété de fromages sensationnels. On a les volailles évoquées par Monsieur Paul. On a aussi tous les produits des rivières et des étangs, même si maintenant on est obligé d'aller les chercher un petit peu plus loin. Tout cela a, je fais un jeu de mots facile, a nourri la cuisine lyonnaise, a nourri les Lyonnais et nourrit tous ceux qui sont venus, hein, parce que vous me complétiez il y a quelques instants en disant que Paul Bocuse était international. Oui, oui, c'est international parce que il y a déjà bien longtemps, lorsque le TGV a été instauré à Lyon au début des années 80, il y en avait un du dimanche matin qu'on appelait le TGV Bocuse, hein, parce qu'il amenait les Parisiens qui venaient déjeuner chez Bocuse.
Et puis Lyon se trouvait sur la fameuse Nationale 6.
Oui, tout à fait. Ben, la 6 au nord, la 7 au sud. Bon, évidemment, maintenant, aujourd'hui, pour la plupart des automobilistes, résumé par un mot horrible, qui est le tunnel sous Fourvière.
Qui n'est pas le meilleur bouchon de Lyon.
Non, et non, hélas. Bon, les problèmes de contournement, bon, ça, c'est une question que les édiles régionaux essayent de résoudre depuis au moins 20 ans. Je me souviens de Michel Noir qui avait cru que ça pourrait être fait en quelques années. Le pauvre s'était malheureusement trompé. Mais tout ça atteste effectivement des transhumances qui profitent à Lyon, parce que ce qu'il faut, c'est que on s'arrête à Lyon. On découvre Lyon, on visite Lyon, on profite de Lyon et on voit la richesse de cette ville.
On a le sentiment que Lyon est en train de prendre conscience de son potentiel touristique et que c'est assez récent.
Oui, c'est assez récent. Alors, il y a un certain nombre de... Ça s'est heurté à des difficultés de capacité hôtelière qui sont en voie d'être résolues. Le problème, c'est qu'il faut arriver à donner de Lyon une image particulière et ne pas en faire simplement une annexe du Mont Blanc, des pistes de ski ou de la Côte d'Azur. Mais je crois quand même que c'est bien parti et je ne connais pas une personne qui ne se soit arrêtée à Lyon et qui n'ait pas été séduite par la ville et ses environs.
On a commencé en évoquant le Rhône et puis la Saône aussi. On va peut-être finir avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Lyon s'approprie d'une manière nouvelle ces deux fleuves qui la traversent, ces deux énormes cours d'eau, et les voit plus comme un atout que comme des obstacles ou des réalités qu'il faut absolument maîtriser?
Vous avez tout à fait raison d'évoquer ce problème. Là aussi, ça fait une bonne vingtaine d'années que la reconquête des fleuves a été entreprise. C'est quelque chose qui me semble en bonne voie. C'est bien dommage que le canal Rhin-Rhône n'ait pu être mené à bien. Il n'empêche qu'on a, avec ces deux fleuves et leurs affluents, des axes de pénétration, non seulement dans le passé de Lyon qui m'est cher, mais également dans le présent et l'avenir.
Un très grand merci, Jean-Étienne Venot, d'être venu nous parler de Lyon, à qui vous consacrez un ouvrage paru chez Perrin, Les Grandes Heures de Lyon. Ce livre est préfacé par Gérard Collomb. Je rappelle que vous êtes historien, journaliste, et donc que si on veut à peu près tout savoir de l'histoire de Lyon, on peut donc lire cet ouvrage. Merci beaucoup, Jean-Étienne Venot, et merci à Pascal Gauthier, qui était à la technique.
Merci à vous.